VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et bienvenue, il est 7h en temps universel. Jacques Aristide en direct de la capitale américaine pour vous présenter le monde aujourd'hui en ce vendredi 1er septembre 2023. À la une de l'actualité ce matin, l'Union africaine suspend le Gabon où le nouvel homme fort prêtera serment ce lundi.
Toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements de notre pays.
Le Nigeria évoque une transition de 9 mois pour les militaires putschistes au Niger. Dans l'actualité également, l'ancien président américain Donald Trump plaide non coupable en Géorgie de tentative de manipulation de l'élection de 2020. Et ne manquez pas non plus l'économie et les sports dans 10 minutes environ. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema va être intronisé dans 3 jours, président d'un pouvoir de transition à la durée encore indéterminée. Mais l'opposition appelle les putschistes à reconnaître plutôt ce qu'elle décrit comme la victoire de son candidat à la présidentielle. Davantage avec Michel Joseph.
Le général Oligui a promis la mise en place progressive des institutions de la transition et le respect de tous les engagements du Gabon, extérieur et intérieur. Le colonel Ulrich Manfumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions.
Le général de brigade, président du CTRI, tient à rassurer l'ensemble des bailleurs de fonds, les partenaires au développement, ainsi que les créanciers de l'État, que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements de notre pays, aussi bien sur le plan extérieur qu'intérieur.
Le nouvel homme fort a aussi demandé à tous les responsables des services de l'État d'assurer la continuité du fonctionnement de tous les services publics. Quant à l'opposition gabonaise, elle est sortie de son silence hier pour demander aux putschistes de reprendre la compilation des résultats de l'élection présidentielle qui verra, selon elle, la victoire de son candidat Albert Ondo Ossa dans les urnes officialisées.
Fidèle à sa doctrine sur les changements de pouvoir anticonstitutionnels, l'Union africaine a suspendu le Gabon de ses rangs hier. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Organisation panafricaine a décidé de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et institutions. La réunion était présidée par le commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, et l'actuel titulaire de la présidence tournante du Conseil, le Burundais Willy Nyamitwe. Mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait condamné fermement ce qu'il avait décrit comme une tentative de coup d'État. Des militaires gabonais ont annoncé mercredi avoir mis fin au régime en place et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, juste après l'annonce officielle de sa victoire à la présidentielle de samedi dernier. Moussa Faki Mahamat avait aussi appelé l'armée et les forces de sécurité gabonaises à garantir l'intégrité physique d'Ali Bongo Ondimba.
Bola Tinubu, le chef de l'État nigérian, évoque l'idée d'une transition de 9 mois pour les militaires au pouvoir au Niger, voisin. De leur côté, ces derniers ont fait part de leur volonté d'expulser l'ambassadeur français à Niamey. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le président Bola Tinubu, qui est aussi à la tête de la CEDEAO, a cité en exemple la transition de 9 mois qui avait été mise en œuvre dans son pays en 1999. Le président ne voit pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger si les autorités militaires sont sincères, rapporte un communiqué de la présidence nigériane. Le texte prévoit que les sanctions imposées par la CEDEAO ne seront pas allégées sans ajustement positif du nouveau régime à Niamey. L'organisation ouest-africaine brandit la menace d'une intervention militaire pour établir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum. Mardi, l'Algérie, voisine du Niger, a proposé un plan de transition de 6 mois. Le 19 août, les généraux au pouvoir à Niamey ont évoqué une transition de 3 ans maximum. Par ailleurs, selon un courrier du ministère des Affaires étrangères nigérien adressé à Paris et daté de mardi, Les services de police ont été instruits afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur français, Sylvain Ité. La lettre précise que les autorités lui ont retiré son immunité et son visa diplomatique et ceux des membres de sa famille. Vendredi dernier, les militaires au pouvoir avaient donné 48 heures aux diplomates français pour quitter le territoire, ce que Paris a refusé, arguant que ce gouvernement était illégitime et n'avait aucune autorité pour formuler une telle requête. Le Front patriotique pour la souveraineté du Niger, une organisation de la société civile, a qualifié M. Ité de citoyen français en situation irrégulière. Le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pierre Gaudière, a averti que les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger.
Et hier soir, le régime de Niamey a dit suspendre toutes les activités des organisations internationales, des ONG et des agences onusiennes présentes au Niger dans les zones d'opérations militaires. Le gouvernement évoque la situation sécuritaire du moment et de l'engagement opérationnel actuel des forces armées nigériennes. En République démocratique du Congo, au moins 48 civils et un policier ont été tués avant-hier à Goma lors d'une manifestation contre l'ONU dans le pays, d'après un document interne. Le document ajoute que 168 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le gourou Efremu Bisimwa de la secte Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations, organisateur de la manifestation interdite. Le mouvement pro-démocratie Lucha condamne ce qu'il appelle un carnage de plus de 50 civils. Nous y reviendrons dans le segment magazine. Ce drame en Afrique du Sud, au moins 74 personnes, dont 12 enfants, ont péri à Johannesburg, prises au piège dans un immeuble délabré de la capitale économique du pays, ravagé par un violent incendie dans la nuit de mercredi à jeudi, dont l'origine n'a pas encore été établie. Une soixantaine de blessés ont été dirigés vers plusieurs hôpitaux de la région. Les opérations de secours et de recherche étaient sur le point de se terminer dans la soirée d'hier. Le président Cyril Ramaphosa a déploré une immense tragédie. Se rendant sur les lieux en fin de journée, le chef d'État sud-africain s'est engagé à s'attaquer à la question du logement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie indique avoir déjoué ce vendredi une nouvelle attaque nocturne de drones dans la région de Moscou. Le maire de la capitale russe n'a pas fait état de victimes ni de dégâts. Le super typhon Saoula menace de frapper le sud de la Chine avec des vents parmi les plus violents que la région ait connus, obligeant les populations des mégapoles de Hong Kong et de Shenzhen à se calfeutrer. En Chine continentale, une alerte maximum a été émise à l'approche du typhon qui, d'après les médias d'État, touchera terre cet après-midi ou dans la nuit. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a plaidé non coupable hier de tentative d'inverser illégalement le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Selon des documents judiciaires déposés devant le tribunal du comté de Fulton, en Géorgie, l'ancien président américain dit renoncer à sa mise en accusation formelle et plaider non coupable. Cette déclaration signifie que Donald Trump, qui s'est lancé dans une nouvelle campagne pour être élu en 2024, n'apparaîtra pas en personne la semaine prochaine devant le tribunal du comté pour entendre la lecture de l'acte d'accusation. Donald Trump est visé par 13 chefs d'accusation, dont celui d'association de malfaiteurs, pour avoir fait pression sur des fonctionnaires de l'État dans le but de faire inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Outre la Géorgie, l'ancien président, toujours largement favori dans la course à l'investiture du Parti républicain pour 2024, est inculpé au pénal dans 3 autres dossiers.
Toujours en Amérique, l'administration du président Joe Biden a fait état hier d'un renforcement de la régulation du commerce d'armes à feu afin d'obliger les vendeurs à vérifier le profil des acheteurs. La réglementation a pour objectif de mettre fin à des vides juridiques dans une loi promulguée en juin 2022 après une série de fusillades meurtrières. Les Singapouriens se rendent aux urnes aujourd'hui pour la première élection présidentielle de la ville-État depuis plus d'une décennie. Un vote scruté comme une indication du soutien au pouvoir après une rare série de scandales politiques. Trois candidats sont en lice pour ce poste, en grande partie cérémoniel. Le vote est obligatoire pour les plus de 2,7 millions de citoyens éligibles. Ceux qui ne votent pas sans raison valable peuvent être radiés de la liste électorale. La présidente sortante, Halima Yacob, s'était présentée sans adversaire pour son mandat de 6 ans en 2017. Voilà pour le journal. À présent, résumé des nouvelles économiques, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Suite au coup d'État au Niger, l'agence publique américaine MCC ou Millennium Challenge Corporation a annoncé suspendre ses financements au profit du Niger en raison de la destitution du gouvernement démocratiquement élu. Cette décision va retarder le développement du corridor routier Niamey-Cotonou. En septembre 2022, l'organisme américain avait approuvé son premier accord de don régional d'un montant de 504 millions de dollars à destination du Niger et du Bénin. Spiro, la société de fabrication de motos électriques, va renforcer sa flotte au Togo et au Bénin. La société a conclu un accord de près de 63 millions de dollars avec le groupe bancaire français Société Générale pour financer ses nouvelles motos, mais aussi des stations de recharge et d'échange de batteries dans les deux pays. En République démocratique du Congo, les participants à un sommet régional sur la conciliation de la production alimentaire et de la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo ont exprimé hier à Kinshasa de vives inquiétudes face aux menaces immédiates qui pèsent, selon eux, sur ce patrimoine forestier. Les multinationales qui achètent les ressources et les concessions sont en ligne de mire car les peuples autochtones sont chassés de leurs terres.
Et maintenant, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour l'actualité sportive. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Nous commençons par du basketball avec le mondial de la balle au panier. L'Égypte gagne en match de classement.
Oui, après leur élimination, les Égyptiens se sont imposés hier 85-69. Victoire également pour le Soudan du Sud 87-68 devant les Philippines. Ce sont les deuxièmes victoires égyptiennes et sud-soudanaises dans ce mondial de basketball. En revanche, l'Angola a perdu son match de classement 76-83 face à la Chine. Pour rappel, l'Afrique n'aura aucun représentant au tour suivant. Tous ces cinq représentants ont fini troisième de leur groupe, alors que seuls les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. Seul enjeu pour ces équipes africaines, se qualifier pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris.
Erling Haaland et Aitana Bonmatí, sacrés joueurs et joueuses UEFA de l'année.
Le numéro 9 de Manchester City, Erling Haaland, qui reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière, a réalisé une saison exceptionnelle avec son club, qui s'est offert un triplé historique Coupe Championnat Ligue des Champions, avec ses 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec City, dont 39 en Première Ligue. Un record, le mancunien de 23 ans a été préféré à son coéquipier belge, Kevin De Bruyne, et à l'Argentin Lionel Messi de l'Inter Miami, vainqueur du Mondial 2022 au Qatar. Récompensé par le prix féminin, Aitana Bonmatí a aussi brillé la saison dernière avec le FC Barcelone, club avec lequel elle a remporté le championnat espagnol et surtout la Ligue des Champions, en étant élue meilleure joueuse pour la deuxième fois de l'histoire du club catalan. La Blaugrana a ensuite conclu sa saison de la plus belle des manières, remportant la Coupe du Monde avec l'Espagne en ayant été nommée à nouveau meilleure joueuse de la compétition. Le prix du meilleur entraîneur est revenu à Pep Guardiola de Manchester City. Du côté féminin, c'est la néerlandaise Sarina Wiegman qui a emmené la sélection anglaise en finale du Mondial 2023 qui a été sacrée.
Football et racisme, un comité de l'ONU alerte sur ce phénomène dans le sport en Italie.
Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale dénonce les discours haineux et racistes en Italie. Une des expertes, Régine Essénémé, a indiqué que le comité évoque des agressions physiques et verbales à l'encontre d'athlètes d'origine africaine. Le comité recommande à l'Italie de porter une attention particulière sur ces cas qui deviennent récurrents contre les Noirs et les personnes d'ascendance africaine, notamment dans le cadre du football. Il demande que la législation nationale qui existe soit effectivement appliquée, que des poursuites soient engagées et que les auteurs reconnus coupables soient punis. En début d'année, l'attaquant belge de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, a été exclu pour avoir célébré de façon jugée provocatrice son but en réponse à des cris racistes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de passer à la tranche magazine. Dès la fermeture des bureaux de vote au Gabon samedi dernier, le gouvernement avait fait couper l'Internet et suspendu des médias français. Depuis le coup d'État, tout semble avoir été rétabli. Pour un point sur l'état de la presse dans le pays, Nathalie Barge a joint à Libreville Sylvana Raissa Oyeaseko, directrice de publication de l'hebdomadaire Les Échos du Nord.
La situation de la presse au Gabon est déplorable. Les journalistes travaillent sans cesse sous la peur, travaillent dans la crainte et l'angoisse. Il suffit d'écrire ou de dire ce qui n'arrange pas l'agent régulateur, la haute autorité de la communication, pour voir son journal censuré ou encore mis en demeure. Les journalistes ont besoin de travailler sans craindre quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Ils sont exposés à des violences à la fois psychologiques et physiques.
Et à présent, comment ça se passe ?
Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les conditions de travail, de sécurité des journalistes. Nous ne pouvons pas dire si la crainte sera accentuée ou inversée. Ce que nous espérons, c'est de travailler en toute liberté, c'est d'assurer notre sécurité.
Et votre rédaction, comment peut-elle travailler ?
Depuis le coup d'État, la presse est totalement mobilisée. Les journalistes sont partout dans Libreville. Certains sont allés à l'intérieur du pays. D'autres n'hésitent même pas à solliciter les confrères des pays environnants parce que nous voulons vraiment ne rien rater et mieux nous imprégner de la situation. C'est à 4 heures du matin, heure où les Gabonais sont censés dormir, que les élections ont été proclamées. Dès cet instant, les journalistes ont compris qu'il y avait un problème et le matin, ils se sont mobilisés pour aller couvrir les événements.
Les militaires ont-ils envoyé des directives aux médias ? Est-ce que vous pensez pouvoir exercer librement par la suite ?
Les médias n'ont reçu aucune directive de la part des militaires. Ce que nous attendons des militaires, c'est qu'ils assurent notre sécurité, c'est qu'ils nous laissent travailler librement et qu'il y ait une meilleure communication entre eux et les journalistes. Ce que je peux dire, c'est que la population est contente. Partout où nous sommes passés, les télés sont allumées, les attroupements sont là, non pas pour casser comme en 2009 et en 2016, mais pour se réjouir. C'est-à-dire que les Gabonais attendent vraiment de ce gouvernement des militaires ou du moins de ce gouvernement de transition beaucoup de choses. Nous avons soif de changement, nous avons soif de liberté.
Sylvana Raissa Oyeaseko, directrice de publication du journal Les Échos du Nord au Gabon.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les commentaires vont bon train sur le continent africain au sujet du coup d'État au Gabon. C'est le cas notamment au Cameroun où les habitants, mais aussi les ressortissants gabonais, ne sont pas indifférents à la situation qui prévaut à Libreville. La crise a déjà des effets sur les activités économiques à Yaoundé, comme a pu le constater notre correspondant Emmanuel Julentap, reportage.
Par crainte de représailles contre sa famille qui vit dans la province de l'Estuaire au Gabon, Roland Fabrice, un Gabonais résident à Yaoundé, n'a pas souhaité être filmé à visage découvert.
Ah, mais finalement, nous sommes très fiers parce que c'est un régime auquel nous avons trop été marginalisés par ce régime et nous sommes soulagés, nous sommes libres. On s'inquiète pour ceux qui sont là-bas, donc nous sommes obligés de prendre des nouvelles. Bon, pour l'instant, on nous donne les nouvelles, sont bonnes, ça nous rassure.
Une assurance qui n'est pas partagée par certains Camerounais à l'instar de Vicky Florette. Elle travaille pour une entreprise de fret terrestre entre le Cameroun et le Gabon. Dans le magasin de l'entreprise, des colis, en attente d'expédition.
Du moment où il y a la marchandise, les voitures vont tous les jours. Bon, actuellement, on n'arrive même pas à charger une voiture parce que la tristesse de tout.
Même désarroi, dans ce marché de Yaoundé, principal point de ravitaillement en fruits et légumes destinés au Gabon.
Hier, je suis venu avec la marchandise. On a bien chargé dans les camions qui partent au Gabon. Arrivé à la frontière, on nous signale que les frontières sont fermées. À la frontière Gabon-Cameroun, que les frontières sont fermées. On est obligé de retourner avec la marchandise pour le Cameroun Yaoundé.
Les pertes sont énormes pour ce jeune qui exporte des ananas vers le Gabon.
Parce que le livreur, celui qui m'a donné les ananas, c'est pour envoyer au Gabon. Il est là, il veut son argent tranquillement. Il n'y a pas. Nous venons subir ce qui se passe là-bas, étant ici.
Si côté officiel, c'est encore le silence à Yaoundé, d'autres secteurs s'expriment. La presse privée relaie abondamment le sujet et le public en parle.
Un président qui a passé 42 ans au pouvoir, il est parti. Son fils vient, il passe 14 ans au pouvoir. Il veut encore prendre pour la troisième fois pour gouverner. Ça suscite la colère des citoyens.
Pour cet expert, le coup d'État au Gabon est un moindre mal pour ce pays et la sous-région.
Eh bien, il est possible que véritablement dans le théâtre gabonais, que nous, les autorités militaires, sous le prisme de cette volonté de changement affirmée par le peuple gabonais, aient pris le pouvoir, mais que véritablement nous restions dans la continuité de l'ancien régime. Et donc la prise du pouvoir par les autorités militaires me semble être le scénario le moins risqué, non seulement pour ce pays-là, mais également pour les États voisins.
Le Cameroun et le Gabon partagent une frontière terrestre de 298 km. Emmanuel Jountap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Il y a deux ans, les députés béninois ont voté à l'unanimité en faveur de la loi sur la biosécurité afin de permettre aux populations de protéger l'environnement et de se mettre à l'abri des dangers liés aux OGM, comprenez, organismes génétiquement modifiés. Qu'a changé cette législation pour le Bénin et comment peut-elle inspirer les agriculteurs d'autres pays africains? Quelques éléments de réponse dans le reportage de Ginette Fleur Adande, notre correspondante à Cotonou.
En adoptant la loi sur la biosécurité, le Bénin prend une place prépondérante dans la lutte contre les effets néfastes des organismes génétiquement modifiés. Massine Gousset est un agent en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Le gouvernement du Bénin a déjà travaillé à mettre en place une législation favorable à cette question. C'est la loi d'orientation agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle que nous avons au Bénin, qui a mis l'accent sur la souveraineté alimentaire, les questions donc de conservation des ressources naturelles, la biodiversité et toute autre chose que vous savez, qui rentre en ligne de compte de permettre à ce que nous allons éviter de distraire nos semences, de donner de l'importance à la semence paysanne et de donner de l'importance donc au plan que nous avons en Afrique.
Cette loi vient renforcer le combat que mènent depuis des années des personnes ressources comme Jeanne Zondi-Ekpon, agroécologue, maître de conférences en génétique. Pour elle, il s'agit aussi de montrer la voie à suivre pour sauver le monde paysan.
Nous avons lutté ensemble contre les organismes génétiquement modifiés. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais on ne va pas être dans la lutte que certains appellent négative tout le temps. Nous allons montrer que nous sommes des scientifiques et nous savons de quoi nous parlons. Donc c'est à partir de là que nous avons adopté l'approche agroécologique. Et nous avons montré qu'avec l'agroécologie, on peut produire tout autant qu'avec les biotechnologies. C'est une question de choix, c'est une question de volonté politique.
C'est dans ce cadre qu'a eu lieu au Bénin la troisième édition de la Foire ouest-africaine des semences paysannes et qui a réuni 24 pays avec des participants soucieux de la montée en puissance des OGM au sein de l'agriculture. Régulièrement, des séances de formation et de partage sont organisées pour donner aux agriculteurs et autres spécialistes les rudiments nécessaires. Omer Agologan est membre du COASP Bénin, le Conseil ouest-africain des semences paysannes.
Personne ne peut dire à son prochain ce qu'il doit manger. La première liberté commence par la nourriture. Même un bébé, quand tu lui donnes ce qu'il ne veut pas, il refuse. Je crois que nous nous sommes rassemblés autour de la question de la nourriture, de l'alimentation. Et depuis 2009, que moi j'ai commencé par participer aux foires, j'ai la conviction que de plus en plus, les gens sont en train de prendre conscience de la question de l'alimentation, de la nourriture dans les pays africains. Sinon, les gens parlent souvent de la sécurité alimentaire. Même de plus en plus, on parle de la souveraineté alimentaire.
Et c'est pour relever ces défis que les agriculteurs ouest-africains organisent des rencontres pour évaluer les résultats de leurs différentes actions. Clémence Simba-Lankwandé est la coordonnatrice du Sénabio Burkina Faso. Elle était au Bénin avec Compaoré Ouédraogo, également membre du Conseil national de l'agriculture biologique au Burkina Faso.
En tant que promoteur de l'agroécologie, la semence paysanne est très importante parce que c'est la semence recommandée. Ça nous permet de mieux promouvoir l'agroécologie, de préserver notre identité, notre culture. Donc, c'est pour ça que les acteurs font la promotion de la semence paysanne.
De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Hier matin, nous vous parlions de cette manifestation anti-ONU, mercredi à Goma, en République démocratique du Congo. Un nouveau bilan a été établi dans le cadre de l'opération militaire qui avait pour objectif d'empêcher la protestation contre la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays. Un document interne de l'armée fait état maintenant de la mort d'au moins 48 civils et d'un policier. Il parle également de 75 blessés. Le gouvernement de Kinshasa a dit soutenir l'enquête ouverte auprès de l'auditorat militaire pour que les responsabilités soient dégagées et que les coupables puissent répondre de leurs actes devant la justice. Eddie Sango a recueilli une nouvelle réaction à propos de ce drame, celle de Bienvenue Matumo de la Lucha, lutte pour le changement.
Hier à Goma, il s'est passé un carnage commis par les FARDC qui ont décidé d'aller tuer les manifestants qui appartiennent à un groupe religieux connu à Goma. Et déjà moi, en parlant avec des familles des victimes, j'ai pu identifier qu'il y avait plus de 50 morts. Et donc, que les documents de l'armée sortent aujourd'hui disant plus ou moins 43 personnes, ça montre quand même que les morts sont nombreuses et on ne peut pas se taire. C'est pourquoi très rapidement, nous, Lucha et d'autres sorties de la jeunesse de Goma, j'ai vu beaucoup de députés nationaux, des leaders de l'opposition, sont en train de demander qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour clarifier cette situation. Une tension est vive à Goma où les gens veulent absolument que la sanction soit prise et que l'état de siège soit levé et que le gouverneur militaire soit arrêté immédiatement et jugé à flagrance parce que c'est lui qui est le commandant des opérations Nord-Kivu.
Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu autant de morts alors que la manifestation avait été annoncée, bon, même si elle était interdite?
La question est posée au gouverneur militaire qui a donné l'ordre d'aller tuer les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on tuerait les jeunes non armés, non violents, et encore qui, si ces manifestants allaient demander le départ de la MONUSCO? Donc l'action n'était même pas orientée vers le gouvernement congolais ou le gouvernement militaire du Nord Kivu. L'action est orientée vers la MONUSCO. Et c'est pas la première fois que cette église manifeste à Goma. Moi, j'étais à Goma le 30 juin 2023. Ces jeunes ont manifesté par milliers. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards qui manifestent pieds nus d'ailleurs, avec leurs symboles liés à leur spiritualité religieuse. Donc qu'on aille les tuer comme ça, comme des sauvages, moi ça me pose un problème.
Vous parlez d'une église ou d'une secte, alors qu'on parle des Ouazalendou, qui sont des combattants, d'anciens
non.
miliciens, réservistes aujourd'hui.
Non, c'est une confusion que les gens fassent. Alors je parle de la secte religieuse qui s'appelle aussi Ouazalendou. Ouazalendou signifie patriote, parce qu'ils militent pour le départ de la MONUSCO, contre l'impérialisme, et pour cette église-là, la MONUSCO représente l'impérialisme au Congo. C'est pourquoi ils s'appellent Ouazalendou. Ce ne sont pas les Ouazalendou, les groupes armés, les réservistes de l'armée qui ont combattu contre l'M23. Non. Et ils sont des civils, des religieux qui croient à une nouvelle forme d'indépendance du Congo, à chassant la MONUSCO, à chassant la force d'occupation de l'AEC et toutes les forces extérieures qui sont au Congo. Ça n'a rien à voir avec les groupes armés qu'on appelle aujourd'hui Ouazalendou parce qu'ils ont été au front avec les FARDC. Non, c'est deux choses différentes. Tout ça dans la non-violence et n'ont jamais eu d'armes à feu.
Certains pensent que les Ouazalendou, ces mouvements, la manifestation d'hier, c'était pour pérenniser justement l'état des sièges, la fin de l'état des sièges que la population ou d'autres personnes réclament.
Non, c'est faux. Ce groupe-là a déjà manifesté 3 fois dans la ville de Goma et encadré par la police. Et rien ne s'est passé comme incident. Pourquoi hier, on a voulu les réprimer?
Bienvenue, Matumo, du mouvement congolais Lucha, était en ligne de Kinshasa. Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Kelvin Fowl était à la technique. Mes deux collègues que je remercie pour leur précieuse aide toute cette semaine, y compris mercredi matin, le jour du coup d'État au Gabon. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Michel et Kelvin se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente journée et un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous. Take care, comme on dit en anglais. À très bientôt. Au revoir.